Un conte d'Hoffmann, Les aventures de la nuit de Saint-Sylvestre, tiré du journal d'un voyageur enthousiaste. Chapitre 1. La bien-aimée. J'avais la mort glaciale dans le cœur. Je croyais sentir dans tout mon être mes veines brûlantes transpercées par des glaçons aigus. Je me précipitai impétueusement dehors, malgré les ténèbres de la nuit et de l'orage, sans songer à prendre mon chapeau ni mon manteau. Les girouettes dans l'édifice graquaient avec des sons plaintifs, et il semblait qu'on entendît le grondement terrible des rouages éternels que fait mouvoir le temps, alors que la vieille année va s'engloutir en roulant sourdement, tel qu'un pesant fardeau dans le sombre abîme du passé. Tu sais, ami, que le retour de ces fêtes de Noël et du Nouvel An, qui nous inspire à tous tant de joie et de franche allégresse, m'arrache invariablement à ma paisible retraite pour me jeter à la merci d'une mer houleuse et mugissante. Noël, oh, ce sont des jours bénis qui depuis longtemps brillent à mes yeux d'une clarté propice. Je les attends avec une impatience sans égale. Je deviens meilleur, plus ingénu que pendant tout le reste de l'année, et mon âme, pleine d'un pur sentiment de volupté céleste, ne nourrit plus aucune pensée sombre ni haineuse. Je redeviens un enfant enivré de plaisir. De gracieux visages d'ange me sourient du milieu des figurines bigarrées et dorées qui garnissent les boutiques resplendissantes de la Noël, et à travers le bruit confus de la foule, j'entends retentir, comme à une grande distance, les merveilleux accords des orgues saints, car il nous est né un enfant. Mais après la fête, tout redevient morne et silencieux, et à ses vives splendeurs succède une triste obscurité. Chaque année, les fleurs fanées s'accumulent de plus en plus à nos pieds. Leur germe est mort pour l'éternité. Aucun soleil de printemps ne viendra ranimer d'une vie nouvelle leurs tiges desséchées. Je le sais fort bien, mais l'esprit malin trouve une joie secrète à m'en rabattre ironiquement les oreilles, comme chaque fois que l'année approche de son déclin. « Vois, murmure-t-il tout bas, combien de jours encore on fuit loin de toi pour ne jamais revenir. Mais en revanche aussi, te voilà devenu plus raisonnable. » Et tu ne fais plus grand cas en général des vains plaisirs du monde. Chaque jour, au contraire, te rend plus grave, plus posé. Oui, tout à fait maussade. En outre, pour la nuit de Saint-Sylvestre, le diable me réserve toujours quelque aubaine particulière. Il s'entend à m'enfoncer à point nommé, avec une affreuse ironie, sa griffe acérée dans la poitrine, pour repaître sa vue du sang qui jaillit de mon cœur. Partout, il trouvait des assistances. C'est ainsi qu'hier, le conseiller de justice le seconda merveilleusement. Il y a toujours chez lui, chez le conseiller de justice, s'entend, grande réunion le soir de la Saint-Sylvestre, et le cher homme s'applique, en l'honneur du Nouvel An, à faire jouir chacun de ses hôtes d'une satisfaction particulière. Mais il s'y prend d'une manière si gauche et si ridicule que toujours ces pénibles préparatifs de plaisir aboutissent à un désappointement comique. Dès que je parus dans l'antichambre, le conseiller s'élança vivement à ma rencontre, me barra la porte du sanctuaire, d'où s'échappait une vapeur odorante de thé et de parfums délicats. Il avait un air affecté de maligne satisfaction, et m'adressant un sourire tout à fait étrange, il me dit « Oh, mon cher ami !» Quelque chose de délicieux vous attend dans le salon. Oh, une surprise sans pareille pour cette chère soirée de la Saint-Sylvestre. Mais ne vous effrayez pas. Je fus consterné, le sombre pressentiment vint m'assaillir. J'avais l'esprit inquiet, le cœur serré. La porte s'ouvrit. J'avançai à la hâte. J'entrai. Au milieu des dames assises sur le sofa, ses traits ravissants m'apparurent. C'était elle, elle-même, que je n'avais pas vue depuis bien des années. Le souvenir pénétrant des plus beaux jours de ma vie rayonna au fond de mon âme d'une brillante clarté. Plus de mortel abandon, toute idée de séparation entre nous à jamais proscrite. Mais par quel merveilleux hasard elle était venue là? Quel événement avait pu l'amener dans la société du conseiller de justice, dont je ne me rappelais nullement qu'elle eût jamais fait partie? C'est à quoi je ne pensais même pas. Elle m'était rendue. Il faut que je sois resté sottement immobile et comme frappé par la baguette d'un enchanteur, car le conseiller, me poussant doucement, me dit « Eh bien, cher ami, eh bien !» J'avançais machinalement, mais je ne voyais qu'elle, et de ma poitrine oppressée s'échappèrent péniblement ces mots « mon Dieu, Julie, ici !» J'étais tout près de la table, à thé, alors seulement Julie m'aperçut. Elle se leva et dit d'un ton presque indifférent « Oh, je suis ravi de vous voir ici. Mais vous avez l'air bien portant. » Après quoi elle se rassit et se penchant vers la dame assise auprès d'elle « Pouvons-nous, demanda-t-elle, compter sur un spectacle intéressant pour la semaine prochaine ?» Tu t'approches d'une fleur magnifique et chérie qui t'attire avec son suave parfum, mais au moment où tu te baisses pour admirer de plus près son éclat et sa fraîcheur, un basilic froid et luisant s'élance de son brillant calice et le menace de ses regards meurtriers. Bien, c'est ce qui venait de m'arriver. Je m'inclinai gauchement devant les dames et pour que le ridicule vînt se joindre à la déception, en me reculant précipitamment, je heurtai le conseiller qui était immédiatement derrière moi, et sa tasse de thé bouillant inonda son jabot coquettement plissé. On rit beaucoup du guignon du conseiller, et plus encore sans doute de ma maladresse. Tout semblait donc conspirer pour ma fatalité, mais je repris contenance avec un désespoir résigné. Julie n'avait pas ri, mes regards égarés la frappèrent, et il me semble avoir rayonné vers moi un coup d'œil expressif plein d'un passé délicieux, respirant toute une vie d'amour et de poésie. Quelqu'un alors commença à improviser sur le piano dans le salon voisin, ce qui mit toute la société en mouvement. On disait que c'était un célèbre virtuose étranger nommé Berger, qui jouait divinement et qu'il fallait religieusement écouter. « Ne fais donc pas un bruit si abominable avec les cuirs à thé, Minette !» Tout en parlant ainsi, en indiquant la porte d'un geste engageant, le conseiller, avec un doucereux « Eh bien !» provoquait les dames à s'approcher davantage du virtuose. Julie aussi s'était levée et se dirigeait lentement vers la pièce voisine. Je trouvais toute sa personne transformée, pour ainsi dire, elle me parut plus grande, plus formée, oui, plus riche d'attraits, de séduction qu'autrefois. La coupe particulière de sa robe blanche, flottant autour de sa taille en plis abondants, et laissant à demi découvert son dos, sa gorge et ses épaules, avec des manches amples et bouvantes, fendues à la hauteur du cou, ses cheveux symétriquement séparés sur son front et par derrière nattés en tresses nombreuses bizarrement entrelacées, tout cela lui donnait un certain caractère antique. Elle me faisait presque l'effet d'une madone dans des tableaux de Mieris. Et cependant, il me semblait en outre que j'avais vu positivement, quelque part de mes propres yeux, celle dont Julie m'offrait en ce moment l'image. Elle avait ôté ses gants et jusqu'au bracelet précieux qui entourait ses poignets, tout dans l'exacte conformité de sa mise, concourait à réveiller en moi, de plus en plus vivante et colorée, cette illusion inexplicable. Julie, avant d'entrer dans notre salon, se retourna vers moi et il me sembla que ce visage si angéliquement beau, si frais et si gracieux, était contracté par une malicieuse ironie. J'éprouvai une commotion horrible, frénétique, semblable à une crampe nerveuse. Oh, il joue à ravir, murmura une petite demoiselle exaltée par du thé bien sucré. Et je ne sais comment, il ne se fit que son bras s'appuya sur le mien et que je la conduisis, ou plutôt qu'elle me conduisit, dans le salon de musique. Dans ce moment, Berger faisait mugir l'ouragan le plus furieux. Ses puissants accords montaient et s'abaissaient comme les vagues retentissantes de la mer courroucée. Cela me fit du bien. Julie se trouva tout à coup près de moi et elle me dit d'une voix plus douce, plus caressante que jamais, « Je voudrais que tu te misses au piano pour faire entendre, sur un mode plus tendre, un chant d'espérance et de félicité passée. » L'ennemi avait fui loin de moi et j'allais, par ce seul mot de « Julie », exprimer l'enivrement céleste dont je me sentais rempli. Mais d'autres personnes, s'avançant, me séparèrent d'elle de nouveau. Je vis alors qu'évidemment elle cherchait à m'éviter. Mais je réussis tantôt à frôler sa robe, tantôt tout à côté d'elle, à respirer une partie de son haleine, et je croyais voir renaître, parée de telles couleurs séduisantes, les heures fortunées de mon printemps. Berger avait fait succéder la calme à la tempête. Le ciel était rasséréné, de nous ses vagues mélodies s'élevaient comme de petits nuages dorés au lever de l'aurore et se perdaient enfin dans un pianissimo presque imperceptible. L'artiste recueillit de nombreux et justes applaudissements, les rangs des assistants se confondirent, et il arriva ainsi que je me trouvais involontairement à deux pas de Julie en face d'elle. Je me sentis animé de plus d'énergie. Je songeais, dans le douloureux transport de mon amour insensé, à la retenir là, à la serrer entre mes bras. Quand la figure damnée d'un valet importun se glisse entre nous deux, un vaste plateau sur les mains, en chuchotant d'une voix déplaisante, « Vous plairait-il ?» Parmi les verres remplis de punch, fumant, j'en remarquais un élégamment taillé à facettes et plein de la même boisson à ce qu'il paraissait. Comment ce verre particulier se trouvait là, au milieu des autres? C'est ce que sait mieux que personne, celui que j'apprends chaque jour à connaître davantage, celui qui est très fort habile, ainsi que Clément dans Octavien, à décrire de son pied gauche d'agréables crochets en marchant, et qui aime prodigieusement les petits manteaux et les plumes rouges. Ce verre, cette coupe merveilleusement taillée et toute esselante, Julie la prit et me la présenta en disant « Reçois-tu encore aussi volontiers qu'autrefois le verre offert de ma main ?»« Julie, oh Julie !» m'écriai-je avec un profond soupir. En saisissant la coupe, j'avais touché ses doigts délicats et mille étincelles électriques embrasèrent mes veines et mes artères. Je bus jusqu'à la dernière goutte. Il me semblait que des petites flammes bleuâtres se jouaient et pétillaient autour du verre et de mes lèvres. Ensuite, oh, je ne sais moi-même comment cela se fit, je me trouvai assis sur l'ottomane d'un petit cabinet éclairé seulement par une lampe d'albâtre, et à côté de Julie, qui me regardait comme autrefois d'un œil candide et bienveillant. Berger s'était remis au piano et il jouait l'andante de la sublime symphonie en mi bémol de Mozart. Ravi par ses accents magiques comme sur l'aile du cygne inspiré, mon âme vit renaître et resplendir d'un nouvel éclat tout le bonheur et l'amour des plus beaux instants de ma vie printanière. Oui, c'était Julie, Julie elle-même dans sa beauté d'ange et son tendre épanchement. Notre dialogue, de langoureuses expressions d'amour, moins de paroles que de regards passionnés, sa main reposait dans la mienne. Désormais je ne te quitte plus, mais ton amour est la divine étincelle qui embrase mon cœur et illumine pour moi une sphère superbe d'art et de poésie. Sans toi, sans ton amour, tout est mort et glacé. Mais je t'ai retrouvé, n'est-ce pas, pour que tu m'appartiennes à jamais. En ce moment, une sotte figure aux jambes d'araignée avec des yeux de crapaud à fleur de tête passa en chancelant et riant bêtement, s'écria d'une voix aigre et glapissante « Mais où diable c'est donc fourré ma femme ?» Julie se leva et me dit d'une voix que je ne reconnus plus « Ne voulez-vous pas que nous rentrions dans le salon ? Mon mari me cherche. » « Vous êtes toujours fort amusant, mon cher, toujours d'humeur originale, comme autrefois, seulement ménagez-vous sur la boisson. » Et le faquin aux jambes d'araignée la prit par la main et le suivit en riant dans le salon. « Perdu pour l'éternité, » m'écriai-je. « Oui, certes, Cody, mon très cher, » brailla un animal qui jouait à l'ombre. Je m'enfuis rapidement dans la nuit orageuse.